Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Escale reçoit aujourd'hui Gianfranco De Matteo qui travaille au Burundi depuis 17 ans dans le secteur humanitaire. Il a été consultant des Nations Unies et a aussi œuvré dans le cadre des ONG internationales. De plus, Gianfranco De Matteo a créé il y a 15 ans, toujours au Burundi, une association qui, à travers diverses publications, sensibilise la population et plus particulièrement les jeunes sur les dangers de la drogue, de la consommation abusive de l'alcool, sur la violence ainsi que sur le respect des droits de l'homme. Bonjour à toutes et à tous, au micro Jean-Pierre Amissi Ramazani.
C'est important que les jeunes soient au courant des dangers de la vie. Il y a des moments qu'ils tombent dans les pièges sans savoir qu'après, sortir de ce piège, c'est très compliqué. Comme sortir de la drogue, sortir de l'alcool, et sont deux problématiques qui malheureusement sont en train d'augmenter et donc créer des problèmes à eux-mêmes et à leur pays.
On va y revenir un peu plus en détail tout à l'heure, mais vous n'êtes pas burundais, vous êtes italien, n'est-ce pas?
Oui, je suis italien et à part les 17 ans que j'ai travaillé ici au Burundi, j'en ai 33 ans d'expérience et de travail dans l'humanitaire. J'aimais ce pays beaucoup, c'est un pays merveilleux. J'ai trouvé mon épouse ici. Et je suis papa de 3 enfants, moitié italien, moitié burundais. Donc, je travaille même pour eux, vu que la moitié de leur personnalité, c'est burundais. Donc, je trouve que c'est correct d'essayer de préparer le terrain à les nouvelles générations.
Alors, vous avez travaillé dans l'humanitaire, comme vous avez dit avant, dans les organisations humanitaires du système des Nations Unies, commandeur du système des Nations Unies. Vous avez créé SODV. En fait, c'est quoi SODV?
Alors, c'est une association, une petite association.
Que veut dire SODV?
Solidarité et développement.
Au Burundi?
Oui, je suis convaincu que le développement n'arrive pas s'il n'y a pas de la solidarité.
Pourquoi?
Parce que c'est la base de s'aimer l'un con l'autre. Si chacune il pense à mettre et à arroser son jardin sans penser à le jardin de l'autre, ça ne peut pas marcher.
Alors, quel est l'objectif de SODV?
Transmettre des messages, essayer de faire changer la mentalité qui est déjà un peu plus âgée et essayer de faire comprendre à les jeunes de ne pas tomber dans les pièges de la vie.
Mais alors, concrètement, qu'est-ce que vous faites sur le terrain pour donc appliquer ce que vous venez de dire?
Concrètement, le travail, c'est première chose, créer du matériel pédagogique et ça, sont les livres.
Vous parlez des livres que vous écrivez vous-même?
Oui, ensemble, le scénario, c'est moi que je le prépare. Mais avant d'arriver au livre, pour moi, c'est obligatoire de parler avec des jeunes. Donc, se passe 3, 4, 5 mois à dialoguer avec les jeunes pour comprendre leurs problèmes. C'est après que ça commence à penser à le scénario, sur la réalité de qu'est-ce que les jeunes ils disent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le moment qu'un garçon ou une fille, il va lire ça, hein, il a d'assez identifié. Ce ne sont pas des banalités qu'est-ce que c'est écrit là-dedans, mais c'est la réalité de leur pays et des problèmes de leur pays.
Alors quand vous parlez des livres, donc vous écrivez des livres sous quel format? Et puis, c'est pour un tirage, et vous les vendez à combien, ces livres-là? Au public burundais, au public international?
Alors, ce sont des projets humanitaires, donc de tous les 240 000 livres que nous avons imprimés, que SODEV il a imprimés, jamais il a demandé 100 francs à personne. Les livres sont donnés gratuitement.
Vous devez être riche pour distribuer des livres comme ça, sans demander un seul franc à personne?
Non, ce n'est pas la richesse, c'est l'intelligence des bailleurs de fonds. Si vous voyez, sous chaque livre, il y a le logo d'un bailleur de fonds, Union européenne, ambassade de France, coopération allemande, coopération française, Manos Unidas, ECO. Donc, c'est le bailleur de fonds qui finance le livre, le projet. Après ça, le livre s'est fait un format A4 avec la couverture à couleur. À l'intérieur, c'est blanc et noir. Pourquoi ? Parce que n'importe pas qui, il nous peut demander de réimprimer. Et donc, le coût de la réimpression, c'est à charge de le bailleur ou de l'ONG qui a besoin de ça. Et après, eux-mêmes, ils vont distribuer ça gratuitement. Ça, c'est la condition sine qua non pour avoir notre permission. Et c'est nous-mêmes que nous imprimons les livres pour les distribuer toujours. Gratuitement, ce n'est pas un commerce. Pour créer un livre, nous faisons un budget. Nous avons tout moins de travail avec des personnes qui travaillent, parce que moi seul, je n'arrive pas à gérer tout ça. Donc, j'ai besoin de designateurs, j'ai besoin de frais de déplacement, toutes les réunions qui se font. Ça, c'est à charge de le bailleur des fonds. Les salaires, disons que moi, je ne prends pas qu'un salaire, je le fais parce que je le sens de faire, mais je trouve que c'est correct que les designateurs, tout ça, ils prennent un salaire parce que c'est un grand travail à faire. Ils travaillent 8-10 heures par jour sur les maquettes, sur les visages, tout ça, avant d'arriver, disons, au produit fini. Donc, ces gens sont payés par le projet. Et le projet, normalement, il prévoit entre 2000 et 4000 livres d'imprimer et de commencer à la première distribution. Donc, nous sommes couverts dans le bailleur des fonds.
Si vous pouvez expliquer brièvement les principaux thèmes que vous exploitez dans vos livres que vous publiez ici au Burundi actuellement.
Le premier livre, pensez-vous, il y a 15 ans, c'était l'FAO qu'il a compris l'importance de véhiculer des messages comme ça, et c'était sur l'environnement. Après, c'est arrivé la malaria, de part de l'ambassade de Belgique. Après, c'est arrivé de part de l'UNICEF sur le sida. ECO, il a nous financé un livre pour faire comprendre c'est quoi l'humanitaire. Nous avons travaillé sur la violence familiale. Nous avons travaillé sur la paix et réconciliation. Nous avons travaillé sur la violation des droits de l'homme, sur l'alcool, sur la drogue, qui sont des gros problèmes qui, malheureusement, sont en train d'augmenter. Mais il semble que personne ne fait rien. Donc, nous sommes en train d'essayer au moins d'informer la jeunesse de quels problèmes énormes. C'est l'alcool, la drogue, toutes ces choses.
Vous parlez de l'alcool, de la drogue. Quelle est la dimension de ce phénomène? C'est un problème qui embrase plusieurs personnes ou c'est une minorité des gens qui souffrent de ce problème actuellement au Burundi?
Alors, je ne peux pas quantifier l'ampleur du problème. Je travaille en collaboration avec le centre Jean Caming. C'est un prêtre italien. Il y a 20 ans qu'il travaille ici. Et dernièrement, il me disait que dans le quartier de Bujumbura, où normalement se fait ce trafic, aujourd'hui vous trouvez cocaïne, héroïne, ecstasy, crack, tout ce que vous voulez à Bujumbura. Il y a une consommation pas évidente de drogue, mais il ne me semble pas qu'il y a un mouvement pour essayer d'empêcher ça.
Alors, vos publications ici, combien de publications déjà depuis que vous avez commencé?
Alors, ce sont 11 livres. Normalement, il y a 11 publications pour un total de 240 000 livres imprimés et donnés gratuitement les jeunes. La distribution s'est faite le moment de la sensibilisation et de la formation que les formateurs du centre Jean Caming il fait, et le livre, c'est un support pédagogique.
Le tirage que vous dites, là, 240 000, c'est par publication?
Non. Le total, c'est un pays trop petit. Nous sommes en train de parler du Burundi et 240 000 livres, pensez-vous. C'est déjà un record pour moi et je suis vraiment très fier de ça.
Vous avez travailler pour des ONG, pour l'humanitaire. Il y a des publications qui sont là pour la jeunesse, les différents problèmes de la société, ici au Burundi. Et alors, qu'est-ce que vous faites d'autre à part ça?
Je prépare des projets. Et il y a le 12e livre. Et ça, il va toucher vraiment quelque chose de très, très important sur la santé des gens. parce que le problème que je suis en train de parler, il touche 25 000 personnes par an, 25 000 morts par an, et c'est la problématique des serpents. Ça veut dire que c'est ici, vous êtes mordu d'un serpent, vous êtes mort, parce qu'il n'y a pas de serpent antivenimeux. Et alors, nous avons pensé de travailler sous deux axes. Une, l'information. La création d'un livre où j'attends le financement pour donner ça gratuitement au ministère de l'Éducation, pour le donner à les écoles et faire expliquer à les enfants que dans ce pays, même au centre-ville de Bujumbura, il y a 13 espèces de serpents mortels qu'il peut toucher n'importe qui. Et malheureusement, le pays il n'a pas, les hôpitaux, il n'a pas de sérum antivenimeux. Donc nous sommes en train de travailler sur ça. Il y a déjà un projet présenté à l'OMS pour la création d'un serpentaire et un laboratoire de production de sérum antivenimeux. C'est le projet. Il démarre, sera le troisième au monde, parce que le premier, c'est à Bangkok, en Thaïlande. Le deuxième, c'est en Brésil, à São Paulo. Le troisième sera ici, au Burundi. Et j'espère pour couvrir un peu toutes les problématiques des serpents en Afrique. Plus la publication d'un livre où les enfants, ils peuvent voir, même les adultes, il y a des explications. Qu'est-ce que faire dans le cas où une personne est mordue d'un serpent? Donc nous sommes en train de travailler sur ça. Notre travail, de l'autre côté, c'est essayer d'introduire les pompes béliers pour l'irrigation et pour fournir l'eau à les villages sans besoin d'utiliser motopompe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes capables de servir un village avec une pompe qui n'a pas besoin ni d'électricité, ni de carburant, ni rien de tout ça. Il fonctionne avec l'onde de choc de débit. Et ça fait 200 ans que cette pompe, il marche. Pensez-vous que les jardins de Versailles en France, ça fait 120 ans qu'ils sont arrosés pour les pompes béliers. Donc, nous sommes en train de cibler les problèmes et essayer de donner une réponse vite, sérieuse et cohérente, et donc avec des résultats.
Qu'est-ce que vous faites d'autre en dehors de ce que vous faites sur le plan humanitaire?
J'aime la cuisine italienne et donc j'aide et je cherche de faire comprendre à les gens qu'est-ce que ça veut dire manger à l'italien. C'est fait de quand j'en ai 7 ans que j'en ai l'amour pour la cuisine italienne et quand je peux, je suis là. L'humanitaire, il reste toujours un humanitaire un peu comme moi, d'idéologie, pas de carrière. Ça veut dire vraiment s'est donné pour aider les gens. Et les gens, ils comprennent ça. Regardez vraiment toujours la façon d'agir et de se donner. Stop, c'est la chose plus importante. Et de plus, je m'excuse pour mon français, mais moi, je suis autodidacte totalement dans la langue française. Je n'ai pas étudié le français à l'école. J'arrive dans l'étude classique, donc grec antique et latin. Quand je suis débarqué ici à Bujumbura, de la langue française, je connais sûrement bonjour, bonsoir et ça va. Je l'ai appris sur le terrain. Donc, si j'ai fait quelques fautes de grammaire, essayez de m'excuser, mais je suis vraiment complètement autodidacte.
Nos auditeurs vous comprennent très bien en français. Merci beaucoup pour l'interview.
Merci à vous.
C'est ainsi que s'achève Escale avec notre invité, l'Italien Gianfranco De Matteo, qui travaille depuis plusieurs années dans le secteur humanitaire au Burundi. Escale est un magazine de la Radio des Nations Unies. Il vous a été présenté par Jean-Pierre Amissi Ramazani avec l'assistance technique de Florence Westergaard. Merci de l'avoir écouté. À la semaine prochaine.